l'aime. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce 74e épisode de la saison 7 du LEM. Et le LEM, c'est du lundi au vendredi à midi et en direct, puis c'est aussi le soir en intégralité à 18h. Le zéro déchet est idyllique dans notre société de surconsommation où la facilité et le superflu riment avec plastique et autres emballages inutiles. Il est, il faut bien le dire, impossible de ne pas produire de déchets. Alors on tente au fur et à mesure des années de réduire, de les trier, de les recycler et maintenant il est même fortement question de les valoriser. Alors on y fait très attention à nos déchets. Et pourtant, ils sont partout, au bord des routes, dans les forêts, les océans et donc dans nos rivières. Beaucoup de structures s'interrogent, s'inquiètent peut-être aussi de l'état de nos cours d'eau. Alors comment faire un état des lieux? Où en est-on avec la pollution des déchets de nos rivières? C'est à ces questions que tente de répondre tous les jours notre nouveau partenaire de Radio Évasion. Et j'ai le plaisir d'accueillir Julie Rionnier. Bonjour Julie.
Bonjour Davy.
Alors vous êtes la chef d'entreprise de Biodivertissons et vous organisez des ateliers de sciences participatives et citoyennes autour de la biodiversité. Alors, nous, on se connaît un petit peu et je sais que vous avez un très joli parcours. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes passé à travailler dans l'environnement?
Oui. Alors, j'ai travaillé pendant de longues années en entreprise à Paris, à La Défense, en tant que chef de projet communication, publicité, marketing et médias particulièrement. Donc le but était de construire des revues de presse avec des équipes techniques pour nos clients qui avaient besoin de toutes ces informations-là pour maîtriser ce qui se disait dans les médias et réagir en cas de besoin. Donc j'ai passé 12 ans à être chef de projet, donc j'étais entre les services techniques et entre les clients. Et donc j'ai adoré cette partie-là, mais au bout d'un moment, ça faisait plus de sens pour moi, j'avais besoin d'être dehors et surtout j'avais besoin de revenir sur ma terre natale en Bretagne. Et donc j'ai cherché ce que je pouvais faire et j'ai découvert les métiers de la nature et j'ai découvert le métier de gestionnaire d'espaces naturels et une partie animateur nature. Et donc j'ai fait une reconversion professionnelle à distance parce que le but était de venir ici et de pouvoir m'investir sur le terrain auprès des structures et comprendre comment ça fonctionnait. Et donc j'ai terminé ma formation en plein Covid. J'ai réussi à créer ma société après Covid, du coup j'ai décalé toute cette partie-là.
En 2021, c'est
ça ? En 2021, oui. Biodivertissons a été créé le 1er mai 2021. Et donc mon objectif, c'est de comprendre les territoires, comprendre les acteurs qui travaillent sur le territoire et de travailler avec eux. Parce que même si j'ai fait une reconversion professionnelle, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas naturaliste de métier. Et sur notre territoire, on a des experts et des expertises magnifiques. Et donc, le but, c'est de travailler avec eux en partenariat, en réseau. Et donc, moi, je fais de la sensibilisation à la préservation de la biodiversité. Et donc, je monte des ateliers, des animations, des conférences. Ça peut prendre vraiment pas mal de formats. Et du coup, je vais intervenir plutôt auprès des scolaires, auprès des enfants, auprès des adultes, du grand public, dans les associations, dans les entreprises, en fait, avec les services techniques aussi des communes, c'est super intéressant. Et donc le but, c'est d'essayer de, à chaque fois, d'avoir une réflexion globale, de fonctionner et de réfléchir sur un territoire, sur un cycle, et donc de connecter les espaces naturels avec un territoire. Donc par exemple, dans un jardin, on a des gestes, on travaille dans notre jardin, on travaille dessus, on essaye de l'améliorer, enfin voilà, on travaille dans le jardin, mais ce jardin-là, il est sur un territoire. Et donc, pour moi, je trouve ça très important de connaître la biodiversité globale du territoire, en tout cas d'essayer de l'observer, d'essayer de la comprendre, pour se rendre compte de ce qui peut se passer à la micro-échelle de notre jardin, par exemple. Et donc, sur tous les sujets que j'aborde, c'est ce que j'essaie de faire, de toujours gagner en hauteur de vue. Et c'est pour ça que je travaille avec des partenaires et en réseau, parce que je considère qu'on est tous différents, on perçoit tous la nature avec nos sens, on n'a pas tous les mêmes perceptions. Et donc, plus on est nombreux, plus on échange. Pour moi, mieux on comprend l'ensemble.
Ouais, et vous êtes apicultrice amateur aussi.
Oui, tout à fait.
Est-ce que c'est, en fait, ce que vous avez appris des abeilles, un petit peu, qui vous a fait prendre conscience de tout ça ?
Oui, ça m'a, je savais le lien que les espèces avaient avec la biodiversité, mais de le voir et de se rendre compte de la résilience ou pas des colonies sur un territoire, c'est fascinant. C'est un autre monde. C'est un peu comme quand on va faire de la voile. Le temps passe à une vitesse hallucinante et on est vraiment happé par la vie de la colonie. Et on voit clairement dans la colonie des signes de l'environnement extérieur, du pollen, du nectar, etc. Et donc oui, j'ai appris énormément de choses. J'ai appris également énormément de choses en termes d'organisation, de construction, de travail d'équipe, voilà, de travail en réseau. Et c'est exactement ce qu'elles font, à un sens super développé. Et donc oui, j'ai appris énormément de choses. Et surtout, avec l'apiculture, j'ai commencé l'apiculture dans le Morbihan. On a déménagé dans le Finistère et donc on a rapatrié forcément les ruches dans le Finistère.
Vous en avez combien ?
On en a 8.
Ouais.
Voilà, donc on attend avec impatience le printemps pour continuer.
Elles font quoi là pendant ce temps-là ?
Là, elles hivernent. Elles restent dans la ruche, ouais. Elles restent en grappe, elles se réchauffent tout ensemble.
Vous avez raison.
Ouais.
D'accord. Et donc du coup, vous travaillez avec qui ?
Alors, je travaille avec tous les acteurs du territoire. Alors, principalement, là, les premiers partenariats, en fait, qui ont découlé un peu de la construction de mon entreprise. Il y a l'association RIEM, donc, qui est le réseau initiative des éco-explorateurs de la mer, donc, que j'ai rencontré dans le Morbihan. Et en fait, moi, avec mon activité, je trouvais, enfin, je trouve encore, mais j'étais énormément tournée vers la biodiversité terrestre et que sur notre territoire du littoral, il n'y avait pas... Pour moi, ce n'était pas évident de faire un lien avec la biodiversité marine et du littoral.
Ouais, alors quand vous dites littoral, on est d'accord, c'est le littoral au sens gigalarge.
Ouais.
Hein,
oui.
c'est pas, on ne parle pas juste de la plage, on parle
non.
De plusieurs kilomètres carrés. Quoi,
ouais, ce sont vraiment, sont vraiment des grosses bandes de terre avec toute la biodiversité et tous les biomes qui la composent. Et donc, quand j'ai rencontré le RIEM, alors c'était au tout début, Biodivertisson n'était pas encore créé, je me posais beaucoup de questions sur ce que je voulais faire, comment je voulais le faire, avec qui je voulais travailler. Et donc, j'ai contacté plusieurs associations pour m'investir sur le terrain, pour comprendre et toujours gagner en hauteur de vue, comprendre qui faisait quoi, où, comment. Et donc, j'interviens toujours aujourd'hui avec l'association RIEM qui anime des programmes de sciences participatives autour des thématiques de la biodiversité marine, du suivi du trait de côte, de l'érosion et des déchets. En fait, toutes les activités humaines qui pourraient avoir un impact sur la biodiversité marine. Et donc, du coup, j'ai commencé par m'investir sur leur protocole dans le Morbihan.
Oui.
Et puis, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de choses à faire ensemble, que ça prenait énormément de sens. Et puis, quelques mois après, j'ai déménagé dans le Finistère. Et là, ça prenait encore plus de sens, puisque maintenant, je suis le relais Finistère de l'association.
Donc, vous êtes conventionné par
tout à fait, exactement.
Ouais, c'est ça. Et donc vous faites des travaux en suivant un cadre. C'est quelque chose quand même... ces activités-là que vous proposez, ces animations, elles sont quand même ultra cadrées. Par un protocole scientifique, vous ne faites pas n'importe quoi.
Non. En fait, sur l'ensemble des missions que l'on peut avoir qui impliquent un protocole de sciences participatives, les sciences participatives, c'est des protocoles scientifiques mis en pratique sur le terrain avec des bénévoles ou des citoyens au sens plus large. Mais il n'y a pas de science participative sans besoin scientifique. Donc c'est effectivement encadré par des protocoles. Et ces protocoles naissent de besoins de gestionnaires du territoire ou d'entreprises qui font appel à ces structures scientifiques parce qu'ils ont des questions sur un espace. Si on parle de l'érosion, ils ont une commune, voit qu'il y a un endroit de sa commune qui vraiment est sujet à l'érosion. Ils vont faire appel à différents organismes scientifiques en fonction du territoire. Il y a des protocoles qui sont mis en place. Et ensuite, il y a des associations ou des entreprises, alors là, en l'occurrence, des associations comme le RIEM, qui vont participer à la rédaction du protocole. mais qui vont surtout faire les formations, animer le réseau de bénévoles, on va dire d'acteurs qui interviennent sur le terrain, récupérer les données pour les vérifier et les valider, et c'est eux qui les envoient aux scientifiques.
Donc la boucle, ben, elle est bouclée.
Exactement.
Donc du coup, les scientifiques, après, établissent un nouveau protocole ou les réévaluent, les rééquilibrent en fonction des besoins. Et puis après, vous donnez de nouvelles instructions, et etc., etc., etc. D'accord.
Exactement.
Alors, vous suivez quel genre de plateforme, quel genre de programme?
Alors, en fait, on a différents outils. C'est vraiment différents outils en fonction des thématiques. Là, si on est sur la partie déchets...
Oui, pour les déchets, oui.
Ouais. Si on est sur la partie déchets, le RIEM, qui a été créé en 2011, a des partenariats scientifiques avec l'IFREMER, le Muséum National d'Histoire Naturelle et j'en passe, le laboratoire Géo-Océan de l'Université Bretagne Sud. Pour la surveillance des déchets, le premier outil qui a été développé, c'est l'application Hobbs en mer. Donc c'est une application où il y a un programme Mission Mer RIEM. Donc c'est vraiment, on demande au RIEM d'avoir accès à l'application pour, au gré de nos balades en mer ou sur le littoral, pouvoir faire des observations donc, de la faune, de la flore, mais surtout également des déchets sauvages, donc des déchets échoués ou flottants si on est en mer. Et donc on se connecte sur l'application, on est relié à un point GPS en fonction de notre position, on prend des photos et on trie. Enfin, on va caractériser le déchet.
Alors ça, c'est une application qui n'est que pour vous ou alors n'importe qui peut l'avoir ?
Pour tous les bénévoles du RIEM.
Pour les bénévoles du RIEM.
Oui, pour tous les bénévoles du RIEM. Donc ça, c'était la première partie. Avec toute l'expérience du RIEM, le RIEM est devenu tête de réseau Bretagne. Donc c'est le partenaire officiel de la plateforme Zéro Déchet Sauvage, qui est un outil là, du coup en ligne. Ça fait à peu près la même chose qu'Hobbs en mer, sauf qu'il y a une fonctionnalité un peu en plus, c'est que les structures s'enregistrent officiellement sur la plateforme et toutes leurs actions de ramassage des déchets, de tri et de caractérisation avec les protocoles qui sont en face sont enregistrées. Et ça, ça permet de faire une cartographie des acteurs, des actions, de combien de personnes sont mobilisées, quelle quantité de déchets, quelle typologie de déchets, quel poids, à quel endroit, à quels endroits même. Toutes ces actions-là sont menées et ça permet de constituer une base de données, une base de connaissances pour on est sur la Bretagne. Donc là, on est très développé au niveau du Morbihan et du Finistère, c'est en cours sur les autres. Mais ça permet d'avoir une cartographie et surtout, le but derrière, c'est que ça serve aux gestionnaires du territoire. Parce que tout ce qu'on fait, c'est pour avoir des données et pour adapter les infrastructures qui sont liées à la gestion de tous ces déchets.
Ouais. Alors, on va parler un petit peu concrètement de ce que vous faites. Là, du coup, on va vraiment parler de terrain. Donc, on va prendre deux exemples. On va prendre l'exemple de l'Aulne et puis de la baie de Douarnenez, parce que j'imagine que vous travaillez plein d'autres, dans plein d'autres endroits. Donc, voilà. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous dire depuis combien de temps vous travaillez justement sur la baie de Douarnenez et sur l'Aulne ?
Alors, un an. Ça fait un an pile, peut-être un tout petit peu moins au 1er février, on est bon. Quasiment. Donc ça fait un an. Le but est... donc moi, je suis le relais, encore une fois, je suis le relais Finistère du RIEM. Et donc le but, c'est d'avoir vraiment deux zones de travail, Golfe du Morbihan et baie de Douarnenez. Et quand on parle baie de Douarnenez, quand on parle littoral, on parle aussi des bassins versants. Et là, du coup, on a mené des actions concrètes sur le terrain avec l'Institut universitaire européen de la mer à Brest. Et les PAGA, donc établissement public d'aménagement et de gestion de l'Aulne, où on a fait venir des lycées, différents lycées du territoire, donc de toute la département, pour faire des journées en fait de ramassage et de caractérisation. Donc le but c'était de construire sur une zone donnée. On a gardé exactement la même zone, on a juste fait intervenir des lycéens différents, de classes différentes, à des périodes de l'année différentes aussi. Ça, c'est intéressant.
Alors, pourquoi des zones données ? Pourquoi des zones... Ouais, elles avaient une caractéristique particulière ?
Alors, quand on recherchait un lieu, quand l'IUM recherchait un lieu pour faire les ramassages, on a découvert, grâce à Nora Abo de l'EPAGA, que cette zone était intéressante, parce qu'a priori, elle constituait une zone d'accumulation de déchets. On a contacté monsieur le maire et les services techniques et eux nous ont ensuite guidés sur le terrain pour nous dire de l'expérience que l'on a, ça serait intéressant de faire les ramassages sur telle zone. Et de toute façon, dans le protocole en question, on a besoin d'avoir ce qu'on appelle des transects. Donc, c'est vraiment des zones sur 100 mètres du haut de la plage, enfin, du haut de la plage jusqu'à l'eau. Et là, on balaye toutes les zones, on ramasse tous les déchets que l'on peut trouver, donc les déchets, ce qu'on appelle sauvages, échoués. Et ensuite, on a tout un protocole pour les trier et pour comprendre ce qu'ils sont et faire remonter ces données-là au niveau national de la plateforme, notamment donc Zéro Déchet Sauvage.
Ouais. Alors du coup, c'est quoi la différence entre au niveau des déchets que vous avez pu ramasser, collecter, observer, entre la bête d'Ouarnenez et cette fameuse grève de Trégarvan?
Alors à Trégarvan, donc on a fait 3 ramassages. Il y en a un quatrième qui va venir. On a fait 3 ramassages en juin, septembre, et le troisième c'était en novembre, je crois. Donc avec des zones et une météo très différentes, on s'est rendu compte dès le premier ramassage que les déchets étaient très anciens. Le degré de dégradation et les marques que l'on identifiait sur les déchets, soit on ne les connaissait pas et on voyait bien que c'était du déchet vraiment ancien. Alors qu'en bête d'Ouarnenez, les déchets, alors la fréquentation n'est pas la même aussi, humaine on va dire, et les déchets sont beaucoup plus récents et a priori plus liés à une consommation alimentaire, ou plutôt à usage unique en fait.
Voilà, d'accord.
C'était les grosses différences.
D'accord. Alors du coup, il y a certains plastiques, par exemple, parce que moi j'ai eu la chance de venir voir à Trégarvan, il y a des plastiques qui cassent. Qui deviennent cassants, et c'est comme ça un petit peu qu'on identifie un petit peu l'âge. On ne peut pas vraiment savoir depuis combien de temps ils sont là, mais ça représente à peu près quel volume un ramassage, et un ramassage dure combien de temps?
Alors, le ramassage, en fait, il dure en règle générale. On organise sur une journée quand on peut, quand on n'a pas le temps. Enfin, une demi-journée, c'est un peu rapide, mais ouais. En général, on fait sur une journée où on a le matin dédié au ramassage et l'après-midi vraiment dédié au tri. Et donc, la quantité de déchets, ça dépend vraiment. On calcule le volume et le poids, mais en règle générale, on est autour, tout confondu sur les 4 zones, d'une bonne centaine de kilos.
Pour un seul
ramassage, ouais, entre 50 et 100 kilos. Ça dépend de la typologie de déchets que l'on récupère aussi. Si on récupère que des mégots, ça va représenter un tout petit volume, un tout petit poids, mais en quantité de déchets, en nombre, ça peut être énorme.
100 kilos, ça fait du volume. Si c'est que du papier, du plastique, ça fait quoi, l'équivalent de 300 litres, peut-être une baignoire, un truc
comme
ça? Oui,
c'est ça. Après, souvent quand même, on a sur ces zones un peu comme Trégarvan, on a souvent des gros déchets lourds. Donc là, forcément, en bois ou en métal. Donc là, forcément, le poids augmente exponentiellement. Mais en tout cas, dans chacun des ramassages, on est à 90% de plastique. En sachant que dans les plastiques, on va mettre aussi bien les mégots que les filets de pêche, que les emballages, que les bouteilles plastiques, que des bouées ou des objets comme ça.
Oui.
Donc c'est très très diversifié comparé à du verre ou à du bois par exemple.
Et donc entre deux ramassages, le ramassage suivant, on va dire que ça c'est le premier 100 kilos, mais vous récupérez combien de déchets? Quand même pas la même chose.
Quasiment. Le seul ramassage où on en a vraiment ramassé beaucoup moins, c'était en novembre, mais on avait eu des coups de vent avec du vent de sud. Donc du coup, on imagine que tous les déchets ont plutôt été emportés.
Et qu'est-ce que ça... Alors, on n'a vraiment pas beaucoup de temps, c'est horrible de devoir gérer une émission pareille. Je voulais savoir, du coup, ces déchets-là, après, une fois que la journée est terminée, parce que bon, c'est bien joli de ramasser des déchets, mais après, il se passe quoi?
Alors nous, on a eu la chance, avec la mairie de Trégarvan, de pouvoir travailler directement avec le responsable des services techniques.
Ouais, alors, avant de répondre, parce que j'ai une question quand même,
ouais.
Est-ce que c'est difficile d'obtenir... Il faut une autorisation pour faire ce que vous faites ou pas?
Alors, on doit avoir l'autorisation forcément de la commune, obligatoirement.
C'est difficile d'avoir une autorisation?
Ça dépend des communes.
C'est vrai? Pour un truc pareil? Utilité publique, c'est difficile? Ouais, d'accord, bon... Très bien. Donc du coup, on va abréger. Et donc du coup, vous en faites quoi de tous ces déchets alors?
Alors là, en l'occurrence, pour le moment, c'est emporté en déchetterie. Donc c'est soit nous qui le faisons, donc on trie en déchetterie, soit ce sont les services techniques qui les prennent en charge. En fonction de la quantité aussi, ça peut être pas mal d'avoir de l'aide et puis du poids. Mais pour le moment, ils retournent dans le circuit déchetterie.
D'accord.
Enfin, où ils vont, circuit déchetterie.
Ouais, puis après, tout est répertorié et envoyé sur les plateformes.
Exactement.
Tout ça.
Ouais.
D'accord.
Exactement.
On va parler un petit peu des déchets que bah, en général, hein, on va essayer de faire un petit peu vite. Combien de temps ça met à se dégrader un bout de plastique?
Ça dépend. On peut aller de. En général, sur le plastique, j'ai pris une petite anti-sèche,
bah
parce qu'il y en a pas mal quand même.
Bah oui.
Sur le plastique, par exemple, sur du mégot, on est sur une moyenne de 5 ans. Mais après, le problème lié à ces déchets-là, c'est peut-être pas forcément ou toujours lié au temps de dégradation, mais c'est aussi au potentiel de pollution qu'ils peuvent avoir. Parce que, par exemple, oui. les mégots, on sait qu'ils vont polluer jusqu'à 500 litres d'eau. Donc, si on fait des bulles autour d'un petit déchet et qu'on en ramasse, ça m'est arrivé d'en ramasser plus de 500 en baie de Douarnenez, par exemple, en une fois.
Ouais.
On imagine le degré de pollution que ça fait. Mais après, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Par exemple, un sac en plastique, c'est 450 ans. Voilà, un masque chirurgical, c'est pareil, c'est 450 ans. Et là, on ne parle qu'en temps. Et bah, toute la pollution liée à ces matériaux-là est juste énorme.
Alors, est-ce qu'on a quand même des solutions pour pallier à ce phénomène-là? Moi, je pensais surtout aux matériaux biodégradables. On nous en parle beaucoup, on nous en donne un peu partout maintenant. Ça devient presque un produit marketing. C'est joli de dire « Ah bah, c'est un truc recyclé, vous inquiétez pas, c'est bon pour la planète et tout. » Mais en vérité, ça se passe comment un bout de plastique recyclé, je pense? Alors, il y a quoi comme matériaux déjà dans un sac? Par exemple, je pense à un sac quand on va en supermarché. On prend un sac biodégradable, c'est fait en quoi?
Bah, ça va dépendre, mais on peut parler d'amidon de maïs ou de Kraft. Il y a souvent du Kraft.
Ouais.
Donc ça, c'est ou même du bambou. J'ai vu aussi des sacs en algues. Après, je pense que ce qui est important de toujours regarder, c'est est-ce que ce matériau biodégradable, est-ce qu'il est associé à d'autres matériaux pour lui donner une autre propriété? Ou est-ce qu'il est réellement brut et utilisé comme ça? Ça, voilà, c'est ce qu'il faut regarder. Et après, je trouve ça intéressant de faire des tests. Par exemple, si on met du Kraft dans son jardin pour pailler comme avec du carton, ben on voit à quelle vitesse ça se dégrade et est-ce que ça se dégrade d'ailleurs. Voilà, ce sont des tests, je pense, à réaliser. Mais il y a plein de matériaux super issus de la nature et ben on tend quand même de plus en plus vers l'utilisation de ces matériaux-là.
Et les déchets qui sont un petit peu éparpillés, un petit peu comme ça, dans la nature, ils finissent à un moment donné par rejoindre le sol. Mmh. Ils s'enfoncent peut-être même, j'imagine, de plus en plus. Est-ce qu'il existe un moyen de pouvoir récupérer tous ces déchets? Parce que des fois, on voit sur la plage les tracteurs qui lissent, on va dire, les plages. Mais non.
Ça, c'est vrai qu'au niveau des déchets, donc nous, on se concentre entre guillemets sur les déchets que l'on voit, donc souvent les échoués. Ouais. Après, oui, effectivement, plus on attend pour les ramasser, plus il y a des chances qu'ils s'enfouissent assez profondément dans le sol. Mais il y a pas mal d'études et d'initiatives qui naissent là en ce moment, en ce moment et depuis quelques temps déjà, mais sur les déchets sous-marins. Comment on les récupère, déjà, est-ce qu'on peut avoir une idée de la quantité que ça représente, etc.
Bah, les déchets dans l'océan, dans l'océan Pacifique notamment.
Il y en a dans tous, mais comment techniquement on les récupère, comment on les traite, tout ça c'est des questions extrêmement complexes. Et là je pense qu'il n'y a qu'en travaillant tous ensemble et en se posant ces questions avec les techniques, comme avec ceux qui connaissent les territoires, avec les techniciens, avec les scientifiques, que l'on va arriver vers des débuts de solutions ou des solutions, ça serait super.
D'accord. C'est quoi votre programme pour 2023?
Pour 2023, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de travail en réseau, beaucoup, beaucoup de projets transversaux et toujours beaucoup d'animation en milieu scolaire avec les enfants sur la vie du sol. On fait beaucoup de choses sur la vie du sol. Et sur les aires éducatives, les aires marines et les aires terrestres éducatives.
Ils réagissent comment d'ailleurs, je pense à ça, les lycéens, les collégiens, quand ils ramassent tous ces déchets? Ils sont plutôt surpris ou ça ne les surprend pas vraiment? Ils se disent que oui, au fait, on le sait quoi.
Alors il y a un peu des deux, mais c'est vrai que souvent ils ne sont pas surpris.
C'est grave quand même.
Ouais, bah après je pense qu'ils sont nés avec ces problématiques-là. Mais en revanche, ce qui les surprend souvent, c'est la diversité de plastique qui existe.
Ouais.
Et le fait que on n'est aujourd'hui pas de filière qui puisse traiter l'intégralité d'un déchet plastique en fonction de sa composition. Donc c'est pour ça qu'on fait tout ça, c'est de comprendre et discuter avec les gestionnaires du territoire et avec les structures pour trouver des solutions.
D'accord. Bien, merci beaucoup Julie.
Merci.
C'était horriblement court, on n'a pas pu faire un quart, on n'a rien fait en fait de ce qu'on avait prévu, c'est terrible. Donc merci d'être venu participer à l'émission.
Avec plaisir.
Et on sent qu'on n'en a pas fini avec ces déchets et on a hâte de vous retrouver pour de nouvelles aventures.